Nous vous présentons, dans la série L'écran radiophonique, un scénario original de Junier Jean-Pierre, Premier souvenir. Production, mise en scène, Junier Jean-Pierre. J'aimais beaucoup ces séances de cinéma. J'y ai vu de très jolis films. On nous passait de tout, sauf des westerns. Une fois, le directeur avait essayé d'en prendre un et il avait trouvé le film tellement bête qu'il n'avait plus recommencé. Lorsque dans un film, il y avait des scènes de baisers un peu longuets ou des scènes de ce genre, un instituteur mettait la main devant l'écran le temps du passage osé. Cela nous faisait crier et siffler. Ça appuyait la scène. S'il ne l'avait pas caché, nous l'aurions fait moins attention. Le directeur de l'école était passionné de cinéma et de tout ce qui était audiovisuel, comme nous disons maintenant, sauf pour la télévision qui était immorale, bien entendu. Nous avions dans nos classes, en face du tableau noir, un écran de cinéma où l'on pouvait passer des diapositives qui n'étaient pas comme maintenant. Elles étaient en forme de film non découpé. En diapo, nous avions par exemple des résumés de l'histoire de France une fois par mois. On pouvait voir passer aussi des films. Nous avions aussi un haut-parleur pour pouvoir suivre la radio scolaire et des électrophones. Dès que je suis rentré dans cette nouvelle école, je n'ai plus été somnambule et je ne faisais plus pipi au lit. On a trouvé que je devais avoir des lunettes. Malheureusement, c'était trop tard, car à 7 ans, les yeux deviennent adultes. Et en plus, le médecin a mis des verres qui n'étaient pas bien adaptés à mes yeux. Ce qui fait que maintenant, je n'y vois guère bien et l'on n'y peut rien. Après ma première année scolaire dans cette nouvelle école, d'habitude, nous ne partions jamais en vacances. L'achat de l'appartement, le prêt à payer, rendait les finances de la maison difficiles. Mais cette année-là, ma tante qui habitait Le Motier m'invita pour l'été. Le Motier était un petit village de 500 habitants à 60 km de Lyon sur la route de Grenoble. Ma tante habitait en retrait du village dans une ancienne ferme avec une cour, un grand jardin en face de coteaux boisés. Là, je passais mes premières vacances. En dehors de Lyon, dans les champs et les bois, je me mis à adorer la campagne. Oui, j'aimais beaucoup la campagne. Pour ma deuxième année scolaire, je changeais de classe et de maîtresse. J'étais dans la classe de Madame Charras. C'était une petite femme grosse, très joviale. Elle devait avoir dans les 50 ans. C'était l'institutrice même qui aimait son métier et le connaissait par cœur. Ce genre d'enseignant que l'on rêve maintenant et qui n'existe plus. Elle portait blouse, lunettes et cartable. La première leçon qu'elle nous faisait était la leçon de morale. Et là, pour la faire, pas la peine de livre pour les exemples. Elle les trouvait dans la vie. D'ailleurs, toutes ces leçons, elle les faisait sans lire. Elle les disait comme une conversation, et nous écoutions. Tous passionnés, quelle que soit la leçon, même le calcul. Elle disait que cela ne servait à rien de faire pendant des heures des opérations si l'on n'expliquait pas à quoi ces opérations pouvaient servir. Les leçons d'histoire, c'était merveilleux avec elle. On revoyait vraiment le temps. Elle n'a jamais eu d'ennui de discipline avec ses élèves. Et ses élèves ont toujours été de bons élèves. Bien sûr, elle non plus n'aimait ni la télévision ni le cinéma. On ne la voyait pas le jeudi. Elle nous a suivis 3 années durant, car elle nous aimait bien et elle m'aimait bien malgré mes mauvaises notes. Je n'ai jamais reçu de réprimande ou punition. C'est à partir de cette deuxième année que je me suis fait des amis. Malheureusement, les amis que je me faisais n'étaient pas très beaux. Mais ceux qui étaient beaux, je les aurais trop aimés et pas pu en faire des amis. À part un, qui était beau, il avait habité Tahiti, son père était gendarme, avait une peau, une belle peau dorée et était bien mignon. Mon camarade préféré et ami s'appelait Marcon. Nous n'étions pas dans la même classe. Marcon était un brave garçon à qui l'on pouvait dire et demander ce que l'on voulait. Il était demi-pensionnaire comme moi. Nous mettions ensemble à la cantine et jouions en récréation. J'étais de moins en moins timide, sauf avec les adultes, et je jouais maintenant. D'autres garçons s'étaient mis avec nous. Nous organisions de grands jeux, de poursuites, de guerres. Nous organisions aussi des pièces de théâtre où ils empruntaient des vêtements, même des jupes de leurs sœurs. On invitait à nos représentations les femmes de service. Quelquefois, dans nos jeux, un grand venait et se moquait de moi qui jouais avec les petits. J'avais honte et ne savais où me mettre. Quelquefois aussi, un autre grand prenait ma défense et disait « Laisse-le, il a été malade. » Chez mes parents, je ne parlais pas de l'école. Je montrais surtout pas ma joie. Oui, ma joie d'y aller. Car je sentais que cela ferait du mal à ma mère. Aux yeux de mes parents, je n'avais pas changé. À la cantine, je m'étais fait des amis des femmes de service. Il y en avait qui m'appelaient son petit chéri. Une autre était grosse et habillée tout en noir. Elle était appelée Mémé Rose. C'était elle qui mettait la louche dans le charbon et nous servait ensuite. Nous étions le chouchou de cette dame de la cantine. J'avais droit à une place à moi et mes amis. Table réservée et bien servie. J'avais eu une accalmie sexuelle. Je me masturbais presque plus. Et puis, un jour, mon sexe a grandi et est devenu adulte. J'en avais honte et en parlais à personne. J'avais des envies terribles et mouillais ma culotte très souvent. Ma mère s'en aperçut et me donna des slips plus grands sans me dire ou m'expliquer quoi que ce soit. Je me masturbais comme je le faisais lorsque j'étais enfant, en le coinçant entre mes jambes. Je ne pouvais pas faire autrement, car ma peau me faisait mal. Je ne pouvais pas en parler et ne savais pas ce que cela allait me nuire toute ma vie. Pourtant, les médecins de l'école tiraient dessus. Ils auraient pu voir la malformation. Ils voyaient bien que ça me faisait mal. Alors pourquoi n'avoir rien dit ? J'avais appris à me retenir et à aller mouiller dans les WC. Lorsque je restais trop longtemps au WC, ma mère frappait et disait « Je sais ce que tu fais, tu vas te rendre malade, sors d'ici !» Pour ne pas mouiller dans la journée mon pantalon, je mettais dans mon slip un mouchoir. À l'école, j'eus que voisin de bois, un jeune qui se nommait Delmange, ou un homme comme celui-là. Il était beau comme un ange. Nous n'avions aucune relation. Il s'était rendu compte que la bosse que j'avais entre les jambes était beaucoup plus grosse que celle de mes camarades, et durant les cours, il la regardait. Une fois, il osa poser sa main sur le haut de mes cuisses. Je la lui enlevai doucement. Je l'ai toujours regretté. Il ne l'a jamais remise. Quelque temps plus tard, j'avais un autre camarade de banc. Lui aussi était très beau. Très vite, il se mit à des familiarités avec moi qui me faisaient peur. Il s'était rendu compte que durant les cours, je pressais mon sexe entre mes jambes pour me masturber. Il avait le culot de me le dire et en plus de mettre sa jambe au milieu de la mienne. Il me forçait à recevoir cette jambe que je refusais. Mais qui s'y obstinait ? Au lieu de chercher à me dégager, j'aurais dû jouer avec lui, puisqu'il le désirait. Il était beau, c'est dommage. À la télévision, à cette époque, avait passé le film La Maternelle. Une de ces scènes m'avait très excité. C'était celle du café où la mère se fait draguer par un homme devant sa fille. Lui aussi l'avait vue, et ça l'avait tout aussi excité que moi. Durant la récréation, un jour, un jeune me pousse contre un mur, se met de dos à moi et me plaque, puis passe sa main et me touche au sexe. Cela m'excite tellement que je le plaque au mur moi-même et le touche. Nous sommes vus plusieurs récréations. Nous nous asseyons dans un coin et nous touchions. Je le touchais et trouvais bizarre que son sexe se redressait à mon contact. Je n'aimais pas qu'il soit trop dur. Ce n'était pas bon au toucher. Il y avait aussi un petit jeune, très petit, qui lui aimait toucher les plus grands. Il me le fit. Pour le punir, je le mis sur mes genoux et le touchais. J'aimais beaucoup le cinéma, mais n'avais pas d'argent pour y aller. Alors, pour me faire de l'argent de poche, je faisais à la place de mes camarades leur ligne d'écriture qui était la punition type du directeur. Tous les samedis, il y avait bibliothèque où l'on pouvait demander un livre pour la semaine. Un jour, je demandais La Jument Verte de Marcel Aimé. C'était à l'époque où le film passait, mais il était interdit au moins de 18 ans. Je fus réprimandé pour cette demande. C'était l'époque de Brigitte Bardot. Nous en rêvions tous. Et Dieu créa la femme, on rêvait tous d'aller le voir. Et tous disaient qu'ils avaient vu la bande-annonce.
de patins roulettes ou une brouette, vous aurez toujours à disposition pour un modeste.
Un jour, il y avait eu devant l'école l'affiche du film Repos du guerrier, où l'on voyait Brigitte Bardot debout, nue, enroulée dans un drap qu'elle tenait entre les seins. Quelqu'un avait marqué sur l'affiche Haut les mains. Un de mes camarades regarda l'affiche. Son père vint vers lui. Qu'est-ce que tu attends ? Qu'elle lève les mains. Oui. Brigitte Bardot symbolisait pour nous le sexe féminin. Nous ne savions rien du sexe, ni de notre envie de l'autre, même pas comment se faisaient les bébés. Mais cela nous rendait encore plus excitant nos désirs qui étaient enrobés de mystère. Le jeudi au printemps ou en été, à la place du cinéma, le directeur louait des cars et nous emmenait au grand large dans les monts du Lyonnais ou autres. Un jour, avant de partir, il me demanda d'aller dans son bureau prendre une boîte à pharmacie. J'y allais. Hélas ! En arrivant, les cars étaient déjà partis. Je ne sais pourquoi, je ne rentrais pas chez moi. Et décidais de traîner dans les rues en attendant leur retour. Je ne faisais rien de mal, j'allais, venais. C'était la première fois que j'étais dehors sans but. Mais j'étais pris par mes besoins et j'étais obligé de m'asseoir pour faire ce que j'avais à faire. À 17h, je rentrais chez moi, comme d'habitude. Les mois passaient, j'étais toujours pris par le sexe, mais je me rendais compte que c'est qu'il y avait une chose qui n'allait pas. J'étais moi, un garçon, un homme attiré par les garçons. Cela n'existait pas. Ce n'était pas normal. Je devais être le seul. Ceci me fit beaucoup de peine et me dit que je devais cacher ce penchant. Pourtant, j'avais eu des rêves où je désirais des femmes. Alors, pourquoi ? Ceci me renferma sur moi-même. Mon corps avait changé. J'avais des poils aux jambes, un sexe énorme. Je ne ressemblais plus à un enfant. Pour uriner, je me cachais bien pour que les autres ne voient pas la différence. Et tous les mardis, à la douche, c'était l'enfer. Je n'osais pas me déshabiller. La fin de l'année scolaire se terminait. Pris par mes désirs, renfermé sur moi-même par ce que je viens de dire, l'avenir me faisait peur. Je ne voulais pas devenir adulte. Chaque nuit, je priais Dieu pour qu'il me fasse mourir. Comme tous les matins où je devais aller à l'école, ma mère me réveilla plutôt que pour aller à l'école et me dit que je n'irais pas à l'école ce matin. Je ne posais pas de questions et nous sommes partis, elle et moi. Nous marchions à pied. Elle ne disait rien. Nous sommes entrés dans un bureau. très sombre. Reçu par un monsieur à lunettes, on me dit que j'allais être apprenti maroquinier ici, à Fantasia. Le monsieur me fit faire des opérations écrire. Puis, il me dit de revenir le lendemain à 7 heures. Et nous sommes partis, ma mère et moi. L'après-midi, je retournais à l'école. Je ne dis rien à personne. Je me sentais triste. Triste. Et j'avais honte. Je sentais qu'une page était tournée pour moi. Je quittais mes culottes courtes pour des longues. Le lendemain, le corps gros, j'allais sur mon lieu de travail avec une blouse en coton grise. Le directeur me mena dans un atelier qui me parut très grand et bruyant.
On a fait travailler. On m'a terminé tôt aujourd'hui.
Ah ouais, tu crois ça?
Oui, il reste plus que deux produits à vérifier.
Et tu sais où ils sont?
Non.
Je travaillais une semaine, puis avait un mois de vacances que je passais à Lyon en priant qu'il durât toujours. Malheureusement, le mois passa et je dus retourner travailler. Je faisais tous les jours le trajet pour aller et revenir du travail, 4 fois par jour, une demi-heure à pied, dans un décor sinistre. Les journées de travail étaient longues, 7 heures, midi moins de quart, 14h, 19h, samedi matin et quelquefois l'après-midi. Et en plus, comme j'étais apprenti, j'avais mes cours. Travail, je ne parlais à personne, trop timide. Lorsque j'ai fait ma première erreur, ce fut terrible pour moi. J'avais fait toutes mes poignées à l'envers. Sur le chemin du retour, je rêvais de cinéma. Je voulais en faire. La plupart du temps, il faisait nuit et le chemin était long. Très long. J'avais du temps pour rêver. Quelquefois, à 13h, je rencontrais des jeunes qui allaient à l'école. Nous faisions du touche-pipi dans les rues désertes qui longeaient la voie ferrée. Rentrant chez moi, mes parents avaient déjà soupé. Je mangeais seul à la cuisine. Mon premier salaire était un billet de 5 francs. J'étais payé 30 centimes de l'heure en travaillant à la production comme un adulte. Durant cette période, je me sentais terriblement seul. J'avais 14 ans, ma vie semblait bouchée pour moi. Je rêvais d'un ami à qui je puisse me confier, dire que je voulais faire du cinéma, que j'avais peur de l'avenir, que je voulais mourir, mourir pour ne pas être un adulte. Les adultes étaient lourds, laids de corps et d'esprit. Oui, chaque matin, je voulais mourir. J'avais honte de mon physique, de mon manque d'instruction, de mes désirs sexuels, de travailler à 14 ans. Je n'avais aucun dialogue avec mes parents. Ils étaient pour moi comme des étrangers, incapables de me comprendre. Je restais muet à la maison et eux ne cherchaient pas à savoir qui j'étais. Il m'arrive de penser à ce que l'on n'a pas fait pour moi et ce qui m'a empêché d'être comme les autres et de ne pas avoir certaines joies. Mon retard scolaire, c'était dû à un problème psychique, dû à l'environnement de ce que l'on m'a fait subir à l'école. Mes parents auraient dû me mener chez un médecin. Ceux-ci se voyaient et comprenaient facilement. En plus, je faisais pipi au lit et étais somnambule, ne parlais et était très timide. La malformation de mon sexe, une opération, aurait suffi lorsque j'étais enfant. Maintenant, il est trop tard et je ne peux pas avoir de rapport sexuel comme un homme. Des lunettes ? Si j'avais eu des lunettes avant 7 ans et de bonnes lunettes, j'aurais eu une bonne vue maintenant. besoins sexuels qui ne sont pas par ceux d'un homme sont dus à ma timidité, au manque d'environnement féminin et tout ce que je viens de dire. Un être humain qui prend un mauvais départ à cause de ses parents ou autres n'est pas un homme à part entière, physiquement et mentalement, et à l'âge adulte, il est trop tard. Sa vie est ratée. C'est inconsciemment ou consciemment que les parents et les éducateurs font des erreurs ou des négligences qui marquent toute la vie de l'homme. Nous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Premier souvenir, production, mise en scène Julien Jean-Pierre, enregistrement CVRP.